plus près de toi.
Plus près de toi.
Près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, ta gala, la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Tu as nagé dans des mers de soda et puis tu t'es fait attaquer par des pingres, des sortes de requins, mais qui sont aussi porte-manteaux. Et puis, soudain, tu t'es retrouvé dans un grand couloir et les portes ne s'ouvraient pas. Alors, tu as pleuré et un monstre avec le visage de ta mère, tu regardais avec des grands yeux et tu disais « viens-le, sale con !» Et puis, alors, soudain, les couloirs se sont transformés en océan et tu as volé dans les mers, attaché à des algues sadomaso. Et puis soudain, tu as entendu ce son. C'était ton réveil. Et alors, tu as surnagé dans le réel et tu es revenu chez nous. Et nous sommes contents. Oh oui! Avec toutes les...
Bonjour, Amonia Kall.
Ah, j'étais en train de triper.
Ah bon? C'était un cauchemar ou un rêve?
Non, j'étais en train d'essayer d'attraper les gens au réveil.
Ah, je pense que c'est fait. C'est réussi.
Tu crois?
Oui. Et tout de suite, pour se calmer, les infos, Thierry Paré.
C'est pas facile, hein, de faire les infos après.
C'est évident.
L'actualité qui reste évidemment dominée largement par la présidentielle, naturellement. Hier soir sur TF1, Marine Le Pen a accusé Emmanuel Macron d'être entre les mains de l'Union des organisations islamiques de France. Organisation dont elle appelle à la dissolution. Marine Le Pen qui continue à occuper le terrain. Elle était sur le marché de Rungis hier en région parisienne. On en parlait déjà d'ailleurs hier matin. Contrairement à Emmanuel Macron, hein, dont l'agenda de campagne, pour l'instant en tout cas, paraît étrangement dégarni. Un début de campagne de second tour en demi-teinte pour le candidat du mouvement En Marche, symbolisé notamment par un couac lors d'un déplacement à l'hôpital de Garches hier. Aucun journaliste n'a pu suivre Emmanuel Macron dans l'établissement à cause d'un problème d'organisation de son équipe de campagne. Jean-Christophe Buisson, on en parlera plus tard. L'attitude d'Emmanuel Macron au soir du premier tour est très critiquée sur les réseaux sociaux. Entre son discours de dimanche soir, son arrivée au parc des expositions avec sa femme à Versailles, à la porte de Versailles, et puis sa soirée à la Rotonde, évidemment, le candidat du mouvement En Marche est accusé, entre guillemets, de céder à la facilité. Il était invité du 20h de France 2 hier soir. Sur la soirée controversée dans cette brasserie parisienne, il a affirmé n'avoir aucun regret. Ce ne sera pas le diktat d'une bien-pensance triste qui me dira où aller. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Il a aussi précisé qu'il n'avait pas de leçon à recevoir. Ça, c'est une réponse à l'encontre de François Hollande, hein, qui a rappelé hier que rien n'était joué et qui a invité le candidat du mouvement En Marche à axer sa campagne sur la lutte contre le Front National. Deux autres infos sur cette présidentielle. D'abord, la CGT appelle à faire barrage à l'extrême droite sans inviter à voter pour Emmanuel Macron. Pour le syndicat, les résultats du premier tour sont les résultats des renoncements des gouvernements successifs à œuvrer véritablement pour la justice sociale. Et puis la Manif pour tous appelle en revanche, elle, à s'opposer à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Candidat, je cite, ouvertement anti-famille. L'hommage de la nation hier, mais aussi l'hommage d'un conjoint à Xavier Jugelet, le policier tué jeudi dernier sur les Champs-Élysées à Paris, dans la cour d'honneur de la préfecture de police de Paris. C'est surtout le discours d'Étienne Cardilès, compagnon du policier assassiné, qui a frappé les cœurs et les esprits. « Vous n'aurez pas ma haine », a-t-il notamment déclaré en citant le journaliste Antoine Léris, dont l'épouse figurait parmi les 89 victimes du Bataclan en novembre 2015. Au Venezuela, la mobilisation contre le président Maduro se poursuit. Des milliers de manifestants occupent depuis lundi les principales routes du pays. Objectif, maintenir la pression contre le gouvernement chaviste et obtenir notamment des élections générales. Les manifestations se multiplient dans le pays depuis maintenant plus de 3 semaines. Une nouvelle mise au pas dans le Xinjiang, c'est en Chine, une province chinoise. Pékin a décidé de bannir une douzaine de prénoms musulmans pour les nouveau-nés dans cette province de l'ouest de la Chine. Dans le Xinjiang, habité à 50% par des Ouïghours, une minorité ethnique turcophone et musulmane, la répression des autorités chinoises se fait de plus en plus sentir. Et puis 60 ans après sa seule finale de Coupe de France de football, Angers va découvrir le Stade de France le 27 mai. Les Angevins ont battu Guingamp hier soir 2-0 en demi-finale, un score qui aurait pu être plus lourd, hein, puisque Jimmy Briand a manqué un pénalty en fin de rencontre. Bref, Angers sera opposé en finale au PSG ou à Monaco. Les deux clubs vont se départager ce soir au Parc des Princes.
Merci Thierry. Bah oui, c'est plus près de toi. C'est Nova Ammoniaca, elle est partie dans le couloir.
Il va vite revenir. Ah, le voilà.
Quelques infos pour la matinée. Il y aura Xavier Veillant, grand artiste contemporain français, qui sera là à 8h-20 pour parler du pavillon français à la Biennale de Venise. Ça commence au mois de mai. C'est lui qui représente la France. Il va nous en parler. Il construit un gigantesque studio d'enregistrement.
Donc continuez.
Avec toute une série d'artistes qui vont passer pendant presque 6 mois là-bas. Et on en parlera tout à l'heure. Bah, oui. Et puis un live à 8h-15, à 9h-15, ce sera la femme qui sera là dans le Café Nova sous la verrière de Radio Nova en public et en direct. Et puis tout à l'heure, il y aura Philippe Stranguet, un journaliste qui vient de temps en temps. Oui.
Pour parler d'un tableau volé par les nazis.
Des tableaux qui ont été rendus à leur propriétaire, à la famille propriétaire initiale. Voilà, c'est le programme de plus près de toi ce matin.
Tout à fait. Tu veux prendre un petit déjeuner
Non, parce que j'ai des problèmes gastriques et j'ai peur de rôtir.
C'est bon, on veut rien savoir.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi? Ah.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
7h, 9h, plus près de toi.
Sur le dernier album de Little Dragon sorti il y a quelques jours, c'était le titre High à l'instant sur Nova.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non?
Réveillons un monument national.
C'est beau, un acteur, le jour où son film sort, après des semaines de tournage, après des mois de montage, après des nuits à parler du film, à le protéger, à le couver, à l'aimer, à en parler, à le défendre, à se battre griffes et ongles pour que les gens aillent le voir le matin fatidique arrive comme un jour de campagne électorale. C'est aujourd'hui que Demain tout commence sort sur tous nos écrans français. Omar est là sur le pied de guerre sûrement. Bonjour cher Omar.
Bonjour.
Ah, cette voix du matin de l'homme qui parle à la radio avant de parler à sa femme presque.
C'est presque ça, ouais.
Donc là, tu es dans ce qu'on appelle la période pré-douche.
C'est exactement ça. Heureusement que c'est au téléphone qu'on se parle, d'ailleurs.
Non, moi, je crois que tu as une très bonne hygiène. À mon avis, il y a eu une douche déjà dans le mois qui précède. Omar, tu as allumé la lumière ou tu préfères rester dans le noir pour m'imaginer?
Je préfère rester dans le noir pour t'imaginer parce que tu as une belle voix, Edouard.
Oui.
T'es toujours dit. Hein.
Et mon corps, c'est pas du tout été ton truc. Non, c'est pas ton truc.
Non, en ce moment, je l'imagine.
Alors Omar, toi aussi, je t'imagine, tu es quoi, sous une couette, des draps, une couverture?
Eh bien, c'est une couverture. Je suis en mode à l'ancienne, tu vois.
Tu t'es enroulé sur un bout de canapé comme ça en sortant d'une interview hier soir?
Eh, c'est ça.
Est-ce qu'il y a un feu de bois, un chien?
Il y a un chien, mais pas un feu de bois.
Mais le chien ne brûle pas, le chien est plus près de toi.
Il est plus près de moi. Ah non, pardon, c'est mon fils. Excuse-moi, je suis mal réveillé.
Oui. Enfin, s'il te mord, c'est que c'est pas un chien, c'est que c'est ton fils. Omar, ton fils dort à tes côtés, il te rassure. Quand tu te réveilles la nuit, il t'apporte un verre de lait.
C'est ça. Non, c'est l'inverse. C'est moi qui le rassure.
Il a peur de quoi, ton fils?
Mon fils, il a peur du noir.
Ah zut, donc quoi, tu lèches une petite veilleuse?
Non, je dors avec lui dans le noir.
Donc là, petit réveil, il dit « Papa, à qui tu parles ce matin ?»
Ben non, il dort encore.
Il dort encore, donc chuchotons, ouais. L'enfant dort.
Oui, mais il ne t'entend pas, donc tu peux même crier, hein, parce que comme tu es au téléphone, tu peux gueuler parce qu'il ne t'entend pas.
Et je n'ai jamais rien compris au principe du téléphone. Omar, tu...
Première vanne marrante de ma journée.
Il était temps, parce que moi, ça fait 1h10 que je suis à l'antenne. Il faut bien que je justifie ce salaire qui est indécent. Omar, tu vas te lever, tu vas aller vers la douche.
C'est exact.
Est-ce qu'il y a beaucoup de pudeur chez les si, ou est-ce que tu as un caleçon, un peignoir, ou est-ce que tu acceptes la nudité telle que Dieu t'a fait?
Pas devant l'enfant.
D'accord. Donc, préserver les enfants. Allez vers la salle de bain. Et là, il y a un rituel. Comment appréhendes-tu le monde de l'eau le matin?
J'y vais direct.
Direct.
Et ça, là-dessus, c'est comme la vie, il faut foncer, quoi.
Donc tu fonces, tu ne vérifies même pas la température de la douche?
Non, c'est bien, c'est parce que c'est surprendre par la vie. Des fois, c'est chaud, des fois, c'est froid, et c'est ça qui est sympa.
Omar, j'ai une question que la France entière se pose.
Alors, je t'écoute.
Est-ce que tu utilises des savons parfumés ou des savons bruts?
Plutôt parfumés, et je dirais même fruités.
On est sur un fruit, on est sur un agrume, on est sur un fruit rouge?
On est sur un agrume, bien vu, un agrume.
Alors, il paraît que le citron réveille, que le pamplemousse endort et que l'orange, tout le monde s'en branle.
Eh ben, je sais plus, c'est plutôt pamplemousse, tu vois.
T'es plutôt pamplemousse. On est là, on est sur un shampoing aussi où il y a juste le corps qui est réveillé.
Je n'ai pas une grande chevelure, donc je me contente du gel douche.
Est-ce que tu vises la calvitie totale afin d'éviter d'acheter du shampoing par économie?
Exactement.
Ah, je rappelle dans les mémoires de l'acteur Yul Brynner, il disait « Ça ne m'a rien coûté en shampoing la vie ». Omar, ensuite, il y a le brossage de dents qui passionne la France. On est sur un dentifrice un peu de hasard, comme ça, dans une chambre d'hôtel, ou bien tout à coup, tu te balades avec ton dentifrice?
Alors ça, Edouard, sur tout ce qui est dentition, qui est dents, je ne rigole pas.
Non.
Ça devient très sérieux. Il faut flusher, c'est entre les dents. Ensuite, on est sur un dentifrice pour la gencive et un dentifrice pour la dent.
On est en trois dentifrices.
Non. Deux dentifrices et le flushage, c'est le petit. C'est comme l'espèce de cure-dent à brosse qu'on passe entre les dents. Très important.
Trois instruments, donc trois fois plus de coûts qu'un français normal. Est-ce qu'il t'est arrivé d'accepter des films pour payer cette opération coûteuse?
Oui, Edouard, mais je ne citerai pas le film.
Omar, on va te laisser te préparer. Tu vas aller au hall, là, voir la première projection de ton film?
Exactement. Je vais aller voir les premiers spectateurs du matin, ce que j'appelle les chelous. Il faut vraiment être chelou pour aller au cinéma à 9h, mais ça fait toujours plaisir d'aller les voir.
Omar, on te souhaite le meilleur pour demain, tout commence. On t'embrasse très fort et réveille ton fils.
Merci.
Aussi.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird. Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Sur Nova, Rodrigo Amarante avec Mana à l'instant.
Il entre dans le studio, l'invité de 7h24, dans Plus près de toi. Les
petit
Français
cheval,
sont suspendus.
Petit cheval blanc. Oh. Bonjour les enfants.
Ah,
bonjour.
Petit cheval blanc. C'est gentil de nous faire un petit coucou.
Bah, je suis venu parce que je me suis dit, bon, faut bien faire un petit coucou de temps en temps. Faut avoir des relations avec les gens. Puis bon, c'est bien pour se parler, puis communiquer, puis parler aux gens qui nous écoutent.
Alors ce week-end, t'as fait quoi, petit cheval blanc?
Eh bien, j'étais chez le pédicure.
Il y a eu du taf.
Il y avait pas mal de taf, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Puis voilà, j'ai une petite frise là sur les sabots, une petite frise grecque.
Ouais, d'accord. Tu as fait combien de kilomètres pour venir jusqu'ici?
Wow, 5-6.
Ah ouais, d'accord.
Je suis dans le 95.
Tu t'es levé de bonne heure?
Mmh. Oh, bah, tu sais, nous les chevals, on se lève plutôt de bonne heure.
Ah, les chevals, oui.
Les chevals.
Oui. Bah non, oui.
Cheval, des chevaux, oui.
On dit chevaux quand il y a plusieurs chevals.
Oui, bien sûr. Ouais, si on a un surmoi un peu trop puissant, oui. Si on peut pas faire des erreurs d'orthographe juste pour amuser les gens. Bon ben.
Et alors raconte-nous la famille, tout ça.
La famille, ça va. Ça va. Le petit. Bon, j'ai un cheval qui est un poney, enfin un enfant qui est né poney. Bon.
Oui, bah.
Un poney, un poème, bientôt.
Bientôt.
Vous l'avez
un poney, on essaye d'éviter les jeux de mots. Oui. Et en fait, un poney, un enfant bon, qui est poney, et qui en ce moment qui a une énergie vite, bon, ben, on est obligé de le soigner avec ce qu'on a. Avec.
Et de quelle couleur? La toison.
Couleur d'un cheval. Un cheval, il a couleur cheval.
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 Il n'est pas blanc.
Et cheval, non, cheval. Non, il n'est pas blanc, bien sûr.
Donc, on n'est pas sûr que ça soit le vôtre, s'il n'est pas blanc. Petit cheval blanc.
Ah, j'avais pas pensé.
Bah, si, quand même. Il faut demander.
J'avais pas pensé à ça.
Bah, c'est quand même.
Ah, bah, faut que je demande à ma femme.
C'est important.
Oui, c'est important. Alors, pourquoi vous m'avez fait venir?
Pour savoir, pour connaître tes conseils de vote.
Ah, mes conseils de vote, je sais pas, mais déjà, il faut que je trouve un isoloir à bataille. Et
alors l'isoloir, justement.
Eh ben c'est un isoloir qu'il faut construire, voilà, qu'il faut.
Quelle taille?
Bah du 5.
Du 5.
Du 5. Moi je prends des isoloirs de taille 5.
C'est des box alors en fait.
C'est un peu des box, c'est ça, tout à fait. C'est des box isoloirs où on peut voter à loisir. Mmh. Et voilà, vous vous demandez sûrement comment je fais pour mettre le ticket dans l'enveloppe.
L'isoloir
permet de garder le mystère. Et ainsi les gens peuvent se demander comment je fais. Oui. En gros, je coince l'enveloppe entre mes deux genoux de la patte inférieure. Et après, ensuite, avec la bouche, j'ouvre l'enveloppe. Mais donc, je suis obligé d'être quand même souple parce qu'il faut que je passe entre mes deux jambes supérieures.
Vous avez un bout de bulletin là, juste là.
Ah, merci.
Restez coincé.
Ah, c'est gentil. Et ensuite, bien sûr, avec la queue, eh ben, je referme l'enveloppe. Oui. Mais là, vous me dites, mais vous n'avez pas mis le bulletin dedans. Ben non, j'ai oublié. Alors, à ce moment-là, ben, je la rouvre. Et le bulletin, il est au sol, ce qui fait que je racle le sol avec mon ventre. Et pour faire rentrer, alors ça prend du temps, ça prend 10-15 minutes. Et puis là, à ce moment-là, bon, ben, je me roule au sol pour fermer l'enveloppe. Et là, voilà, ben, c'est fait.
Ah, ben, c'est formidable.
Formidable, c'est bien en fait, comme
oui.
mot.
Oui, c'est plutôt magnifique. Ouais.
Et quand vous votez, vous allez dans quelle lettre? Parce que c'est par ordre alphabétique. Vous êtes quoi, à C, comme cheval?
Cheval, non, c'est
ou
mon nom de famille,
blanc.
C'est blanc.
Ah, blanc, c'est votre nom de famille?
Oui, oui.
Ah, ok, d'accord. Donc vous êtes au troisième bureau, là-haut, c'est ça?
Bah oui, je ne veux plus monter les escaliers.
D'accord, ok. Bon, bah, c'est formidable.
Voilà.
On nous fait signe que c'est un tout petit peu trop long.
Ah. C'était quand même très très drôle.
Il y a eu des moments qui étaient très, très corrects.
Donc on a appris surtout
que. Je dis aux enfants qui nous écoutent, bon courage pour vivre dans un état nazi. Bon, faut se préparer pour vivre dans un état.
Voilà. Oui, merci Cheval Blanc. La France a peur.
Et ça, c'était Pierre Louis avec Créole Swing. C'est l'occasion de danser un petit peu le matin.
Ça fait du bien. 7h30, l'heure du journal de Thierry Paré.
Un meeting à Arras dans le Pas-de-Calais, précédé d'un déplacement dans la journée à l'usine Whirlpool d'Amiens, menacé de délocalisation. Voilà, ça c'est le programme d'Emmanuel Macron pour ce mercredi 26 avril. Le candidat du mouvement En Marche, dont l'agenda était jusqu'hier, en tout cas étonnamment dégarni, a visiblement décidé de passer la vitesse supérieure, ce qu'a fait Marine Le Pen dès le lendemain des résultats du premier tour. Hier, elle était sur le marché de Rungis, hein, par exemple. Marine Le Pen, qui était l'invitée du 20h de TF1 hier soir, elle a accusé Emmanuel Macron d'être entre les mains de l'Union des organisations islamiques de France, organisation dont elle appelle à la dissolution. Emmanuel Macron, lui, était l'invité pendant ce temps-là du 20h de France 2. Alors sur sa soirée controversée à la Rotonde dimanche soir, célèbre brasserie parisienne, il a affirmé n'avoir aucun regret. « Ce ne sera pas le diktat d'une bien-pensance triste qui me dira où aller », a-t-il notamment déclaré, avant de préciser qu'il n'avait pas de leçon à recevoir. Une réponse à François Hollande qui a rappelé hier que rien n'était joué et qui a invité le candidat du mouvement En Marche à axer sa campagne sur la lutte contre le Front National. Des camions transportant les premiers éléments du bouclier antimissile américain Taad sont arrivés ce matin sur le site prévu à cet effet, le site de déploiement en Corée du Sud prévu à cet effet. Au Venezuela, la mobilisation contre le président Maduro se poursuit. Des milliers de manifestants occupent depuis lundi les principales routes du pays. Objectif, maintenir la pression contre le gouvernement chaviste et obtenir, tenter de le faire du moins, des élections générales. Les manifestations se multiplient dans le pays depuis maintenant plus de 3 semaines. Et puis 60 ans après sa seule finale de Coupe de France de football, Angers va découvrir le Stade de France le 27 mai. Les Angevins ont battu Guingamp hier soir 2-0 en demi-finale. Un score qui aurait pu être plus lourd hein, puisque les Angevins ont manqué un pénalty en fin de rencontre. Jimmy Briand précisément. Angers sera opposé en finale au PSG ou à Monaco. Les deux clubs vont se départager ce soir au Parc des Princes.
Magnifique.
Merci Thierry.
Vous auriez pu donner l'heure quand même.
Oui.
17h32, quelque chose comme ça.
Voir la météo.
Non, mais la météo.
Pour revenir sur Angers, ils n'ont jamais vu le Stade de France en fait.
Non.
Ils ne sont jamais rentrés, donc ils vont découvrir. C'est magnifique.
Bah, c'est ça. C'est ça.
Voilà, c'est toujours une info qui
s'est. Non, mais c'est un événement.
C'est un événement pour eux quand même.
Comme la venue de Xavier Veillant, l'artiste contemporain, dans une dizaine de minutes, dans Plus près de toi.
Magnifique.
Sur Radio Nova.
Vous voulez dire quelque chose, Ammoniaca?
Non, j'écoute et je trouve que vous avez vraiment des façons de parler d'une somptuosité qui vraiment me fait. Mais d'un plaisir.
Vous voulez quoi? Un chèque? Quelque chose?
Non,
on n'a pas entendu le générique d'Ammoniaca.
Ah oui. Mignon.
Ça aide les enfants à aller à l'école. Merci, Ammoniacal.
Aujourd'hui, j'ai mangé une salade de Porto. Et c'est du Porto hein, qu'on met avec du Porto. Et puis après, on recouvre de Porto. Et après, j'ai ouvert une boîte de sumo à l'huile. Mais j'ai pas réussi à la finir parce que c'est des boîtes assez grandes où il y a 2 sumo dedans.
Oui, c'est.
Et donc j'étais obligée d'inviter des amis, notamment un ami vautour qui est vautour. Et aussi, il est machine à laver, mi-vautour, mi-machine à laver, mi-distributeur de NEM. Mmh. Et voilà, puis on a bien mangé, puis après. On a roté.
Oui, c'est une belle envie de prendre un petit déjeuner.
C'est le tribunal national dans la forêt magique de Roté.
Ah d'accord, ok.
Je vais prendre le même croissant que vous.
Pareil, on veut le même.
C'est du shit.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird.
Je passe une matinée, mon Dieu.
C'est un petit canari musical qu'on écoutait à l'instant avec le titre Passager. Canari, ça s'appelle comme ça.
Et Canari, dans Plus près de toi, où on écoute quelques passages des meilleurs moments, et ils furent nombreux depuis le 10 octobre, sur Nova, quelques meilleurs moments de Plus près de toi, comme par exemple cet appel.
C'est la Saint-Gontran aujourd'hui. Si vous avez la chance de connaître un Gontran, c'est le moment d'en appeler un. Allô ?
Oui, allô ? Allô ?
Allô ?
Allô, j'écoute.
Allô, Gontran ?
Oui ?
Gontran, de la part de toute l'équipe de Nova, très très bonne fête.
Oh, c'est Nova qui m'appelle ?
Oui.
Oh là là ! Mais vous avez eu mon numéro comment ?
Hein ? On est sur la voie d'un des plus mauvais sketchs de l'histoire de la radio. Restez avec nous, restez bien avec nous. Restez avec nous. Alors, Gontran, on a eu ton téléphone, votre téléphone par un proche, par votre épouse.
Oh là là !
Et qui nous a dit, ça lui fera plaisir.
Oh ben, oui, ben oui, ça me fait drôlement plaisir. C'est-à-dire, je m'y attendais pas du tout. Parce que, maintenant, les gens souhaitent plus tellement la fête, alors...
Voilà, c'était d'où l'idée qu'on a eue ici à Nova, alors, avec l'équipe de plus près de toi.
Ah, c'est incroyable. Oui. Mais c'est vraiment Nova, c'est Nova.
Voilà, et en plus, je savais que vous étiez chez vous, Gontran, parce que vous êtes sans emploi.
Oui, ben, mais on va pas parler de ça un jour de fête, alors.
Non,
hein,
bonne
hein
fête, puis je sais que vous êtes aussi malade, vous êtes alité, Gontran.
Oui, mais
on va pas parler de ça.
On va pas parler de ça.
Bonne fête, je sais que vous n'attendez...
Oh là là, c'est incroyable, ouais. Oh là là, au début j'ai cru que c'était la valise RTL.
Ouais.
Parce que ça je l'ai, la valise RTL. Je vous dis ce qu'il y a dedans ou pas ?
Non. Alors, on va un petit peu débriefer. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? Au lieu de nous juger.
Bonne question.
Au lieu de nous juger, avec là du genre, oui, évidemment. Oui, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire autre chose avec d'autres gens sur un autre thème. Eh ben non, on s'est lancé. J'ai fait signer à mon François Rollin, je lui ai dit, on y va. Écoute ce qu'a dit Tito, c'est la Saint-Gontran. Est-ce que tu te sens d'y aller avec moi ? Et là, le Rollin, il dit, allez, on y va. J'ai pas de texte, je m'en fous. Tout en impro, tout en folie, tout en générosité. C'est tout cadeau, là, hein, François. Vous êtes dit, sans filet, sans valise, vous y êtes allé.
Ouais, puis Acteur Studio, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment été Gontran en moi-même.
Vous avez été Gontran, je vous ai plus reconnu, vous oubliez. Alors le texte n'était pas là, évidemment, l'humeur, le rythme non plus, mais l'intention. Et quoi de plus beau qu'une bonne intention ?
Eh ben, pourquoi on le referait pas demain matin ?
Oui, demain matin, mais même sans nous, vous voyez, et pas forcément à la radio, voilà. Je pense, bien entendu. Voilà, allez, c'est cadeau, c'est pour vous, vous le prenez, vous l'emportez chez vous, au bureau, au travail, la journée ou à la maison, vous avez dit, j'étais là lors du sketch de J'appelle un Gontran, et là c'est... Oui.
Nova toujours première sur la trompette avec le groupe américain The Barclays. À l'instant, c'était Soul Fingers. Thomas.
Et on continue plus près de toi. On est très heureux de recevoir à 7h43 dans Plus près de toi Xavier Veillant, un des artistes contemporains les plus reconnus, sculpteur, peintre, vidéaste, et qui va représenter la France à la Biennale de Venise. C'est dans quelques jours maintenant, c'est le 13 mai. Ça commence le 13 mai, ça sera jusqu'au 26 novembre. Bonjour Xavier Veillant.
Bonjour.
Le pavillon français, représenter la France, ça veut dire quoi en fait à la Biennale de Venise ?
Oula, grande question.
Oui.
Représenter la France, bah, c'est une responsabilité, c'est un plaisir. Mais évidemment, on essaie d'échapper un petit peu aux représentations strictement nationales. Et moi, je le fais par l'art, mais aussi par la musique.
Est-ce que vous êtes dans l'équipe de France d'art contemporain ?
Ammoniacal.
Je suis presque le chef, même.
Le capitaine,
voilà.
Oui, capitaine de l'équipe de France d'art contemporain. Mais c'est vrai que c'est lié au son, lié à la musique. Ça s'appelle, en tout cas, vous transformez ce pavillon français en un studio, c'est ça ? Studio Venezia ?
Oui, l'idée de Studio Venezia, c'est de faire une grande sculpture, qui est une architecture en fait, dans laquelle on rentre, qui est inspirée par les dispositifs acoustiques, les studios d'enregistrement, les salles de concert. Dans la forme, tout est en bois, en contreplaqué. Et à l'intérieur de cette grande sculpture, il y a un vrai studio avec des micros, avec une console, tout ce qu'il faut pour enregistrer de la musique. Et les gens qui viennent visiter sont confrontés à des gens qui sont en train de travailler un peu comme si quelqu'un rentrait ici dans ce studio et observait ce qui se passait.
Donc à partir du 13 mai, à intervalles réguliers, il va y avoir des artistes, des musiciens, des gens de son qui vont passer... Mais pour travailler pour eux, c'est ça ? Ils vont pas laisser en partant un enregistrement, une musique, une chanson terminée, c'est ça ?
Oui, parce que l'idée, c'est aussi de désengager ce qui préside normalement au contrat musical, c'est-à-dire on achète un billet, quelqu'un se produit sur une scène, ou bien on achète un disque, ou on écoute un MP3. Et là, on est en amont de tout ça, c'est-à-dire au moment où la musique apparaît. Et donc les musiciens sont invités à venir, on met à leur disposition ce studio et le personnel pour réaliser des choses. Et ils repartent avec leur disque dur et ils font ce qu'ils veulent avec. Donc moi je m'occupe juste d'inviter les gens, de les recevoir et d'avoir construit cet endroit. Et après ça, ça ne me regarde plus.
Il y a quelques noms qui ont déjà circulé d'artistes qui vont passer par ce studio Venezia, Xavier Veillant, Flavien Berger, Christophe Chassol, j'ai noté aussi Jonathan Fitoussi, Sébastien Tellier. Ce sont des invitations en fait, que vous avez lancées.
Oui.
À qui d'abord ? À des amis ?
Certains sont des amis, mais en fait tous étaient des gens que j'ai d'abord rencontrés musicalement. Mmh. Et en fait, je suis fan de tous ces gens-là, comme par exemple Chloé qui va faire... un travail spécial là-bas et qui va enregistrer un album là-bas. Mais c'est des gens qui m'ont tous intéressé pour leur ouverture musicale. Donc c'est plutôt une question d'attitude parce qu'il faut accepter que quelqu'un puisse pousser la porte de cet endroit qui est normalement très protégé, qui est justement l'endroit où on tente des choses et où on accepte l'échec à répétition avant de trouver le bon son.
Le studio, c'est le studio d'enregistrement, c'est aussi l'atelier de l'artiste, le studio. Mmh. Ça, vous créez à Venise, donc à partir du 13 mai, un lieu qui mélange un peu les deux. Et en même temps, on a l'impression que vous créez quelque chose qui n'est pas ni de l'ordre de la pièce plastique, de la sculpture, qui n'est pas non plus de l'ordre de la performance. Vous ne demandez pas à ces musiciens de faire une performance. Et pourtant, on est dans un lieu d'art contemporain. Il y a l'idée de créer, ou en tout cas d'imaginer... un dispositif nouveau, en tout cas inédit, créer un autre rapport aussi à l'œuvre d'art qui est en train de se construire devant nous.
La volonté, ce n'était pas vraiment de faire quelque chose d'inédit, mais c'est un peu arrivé comme ça. C'était plutôt parce que j'avais envie aussi que ce qui est normalement un aboutissement à la Biennale de Venise, c'est très important pour n'importe quel artiste. Il n'y a pas tellement de stades après. Et justement... De brouillon, voilà. de faire quelque chose qui soit une esquisse, on va mm-hmm. dire, mais qui peut se prolonger après ça dans quelque chose... d'ailleurs, l'exposition est itinérante. Et je ne sais pas très bien ce qui va se passer au-delà de fin novembre où on aura tout ce matériel accumulé. Mais mon but n'est pas de m'occuper de ce qui va être produit, mais plutôt de créer une situation mm-hmm. et que cette situation m'échappe un peu et échappe aussi un peu à la Biennale. C'est-à-dire aille vraiment au-delà par le data, par la musique, se répandre au-delà du cercle de la Biennale.
Alors non seulement le studio va voyager, c'est ça ? Mais oui. Aussi la musique qui va être créée fait partie aussi du dispositif, c'est ça ? C'est en voilà, ça que vous voulez dire qu'il y a ces voyages-là ?
Exactement. Il y a deux voyages. Il y a le voyage physique de l'exposition, même si on va la remanier complètement. Ça va aller au MAT à Lisbonne. En septembre 2018, et puis à Buenos Aires, au CCK, qui est un très grand centre d'art. Et on commence déjà à travailler. Par exemple, il y a des artistes lisboètes qui vont venir à Studio Venezia, les gens d'un collectif de rappeurs qui s'appelle Niagara, qui nous ont été recommandés par Warp, le label Warp. Et on essaye de créer déjà des connexions pour que les artistes puissent venir pour donner un petit peu le point de vue. En fait, ce n'est pas un point de vue local à chaque fois, mais c'est qu'est-ce qu'on voit depuis Venise, qu'est-ce qu'on voit depuis Lisbonne et de Buenos Aires.
Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous travaille, Xavier Veillant, qui est la question du son dans l'espace. C'est-à-dire que là, vous créez un espace, vous vous intégrez dans un espace existant qui était celui du pavillon français, que vous remaniez complètement, et le son qu'on laisse libre, le son qu'on laisse au hasard quasiment, au hasard de ceux qui le créent évidemment, mais pour celui qui se balade, celui ou celle qui se balade dans le pavillon, ce sera ça. Vous avez travaillé par exemple déjà avec Eliane Radigue, qui est un grand nom de l'électroacoustique, et là on est vraiment dans la question du son dans l'espace, et comment même créer de l'espace avec le son. Ça vous intéresse ?
Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que la plupart de ce qu'on entend, c'est des sons qui sont médiés, je ne sais pas comment on dit, enfin, qui passent par une médiation. Mm-hmm. Alors que quand on va, par exemple, dans une philharmonie et qu'on entend l'orchestre s'accorder, on n'est pas encore dans le déroulement de quelque chose d'écrit, mais on est dans la pureté du son et quelque chose qui est presque avant la musique. Et c'est ce stade-là qui m'intéresse, en fait. C'est la matière première sonore. Qui met en action un espace architectural ou un espace visuel.
Et la vibration sur le corps aussi, c'est ça qui compte ?
Oui, ça c'est un héritage de nightclubbing, mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec la musique et ce que j'associe aussi à ma démarche vis-à-vis de l'art contemporain, c'est que On ne peut pas dissocier ce qui est de l'ordre du cérébral et du physique. Donc il y a une forme de sensualité que la musique introduit dans l'art contemporain qu'on trouve moins, parce qu'on sépare plus facilement dans l'art contemporain ce qui est conceptuel et ce qui est formel. Pour moi, c'est entièrement lié. Comme ce qui est de l'ordre de la sensualité, par exemple.
Et alors vous, Xavier Veillant, à Venise, vous êtes en plein travail maintenant encore, parce que ça commence le 13 mai, mm-hmm. mais après le 13 mai, vous serez un des déambulateurs. Comment ça va durer donc jusqu'au 26 novembre? Vous allez accueillir les artistes?
Moi, je vais plus ou moins... J'habite à Venise, j'ai un appartement là-bas pendant les 7 prochains mois, et depuis un mois, j'y vis. Et puis, je vais être dans le studio pour accueillir chacun des invités, et aussi pouvoir profiter un petit peu de tous ces gens dont je suis fan avant tout, et ne pas participer musicalement, mais être là pour les recevoir comme n'importe quel hôte qui reçoit de ses invités.
Xavier Veillant, artiste et fan, donc ce sera Studio Venezia à partir du 13 mai.
Justement, Xavier Veillant, votre studio a l'air très chaleureux, comme une maison d'hôte. Alors j'ai un artiste à vous proposer, est-ce que ce serait possible de le prendre à la Biennale bientôt, n'est-ce pas?
Fantastique.
Bonsoir.
Joue-nous quelque chose, s'il te plaît, parce qu'on a besoin.
Sous le soleil, sous le vent, sous le plateau d'argent, je retournerai là-bas. Lorsque le vent soufflera, tu me donneras des pommes et je sentirai ta peau contre la peau d'une peau encore plus fraîche.
Tu aimes Venise, toi, non? Tu m'as dit. Sans... Tu voudrais bien aller à Venise.
Venise, ouais, j'aime bien.
Tu m'as dit que t'aimes bien l'eau, non?
Ouais, j'aime bien l'eau. J'aime bien me laver.
Xavier a dit oui, je crois, non?
Non, il a dit je vais réfléchir.
On va réfléchir pour Lisbonne.
Pour Lisbonne, peut-être, peut-être.
Ou plus loin.
Beaucoup plus loin.
Merci, très, Xavier. Très loin.
Merci beaucoup.
7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Une émission extrêmement racoleuse.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Tu es très jolie, et comment tu t'appelles?
Louise.
Alors on m'a dit que tu faisais de la musique, Louise?
Oui.
Qu'est-ce que tu fais comme...
Je fais du violoncelle.
Ah oui, ah, c'est compliqué ça.
Non, ça va.
C'est une petite contrebasse, c'est ça? J'y connais rien moi.
C'est une sorte de violon, je pense, mais qu'on aurait mangé énormément.
Et qu'est-ce que tu fais jouer avec le violoncelle?
Des morceaux, enfin de la musique.
Il fallait la porter?
Il n'y a pas de place, peut-être assez lourd.
Oui, il vaut mieux prendre une flûte ou un triangle.
Et je me présente, Jean-Noël Mistral. Parce que
pardon, tu vas dire un poème, mais il y a aussi, sous la haute autorité d'un autre grand poète qui s'appelle Jean-Noël Mistral.
Je suis désolé de m'être présenté, je ne voulais pas prendre le focus.
Mais vous l'avez pris quand même, donc c'est trop tard.
Toi qui est importante.
N'effrayons pas cette jeune gamine qui va nous dire un sublime poème. Et qu'est-ce qui te met en colère en ce moment, toi?
Je suis pas en colère.
Des fois, tu es en colère?
Oui.
Contre des copines, contre maman?
Contre ta mère?
Oui.
Qu'est-ce la dernière fois que vous êtes mis en colère, c'était quoi?
Par rapport à ta chambre?
Non, c'était pour me réveiller ce matin.
Ah oui, c'était dur de venir dire un poème. Mais tu vas voir, ça va être un bon souvenir. tu veux nous le dire là maintenant?
Oui.
Tu es prête? Tu le sais par cœur? Magnifique.
Je te protège. Lorsque le crépuscule envahit mon atmosphère, lorsque le vent de la haine souffle sur mon univers, lorsque les vers de sang coulent sur ma lumière, alors... Je lève ma plume de rime et de chair, gladiateur des lettres, je croise le fer pour atteindre mon équinoxe littéraire, alors... Je te protège, liberté, pour te respirer. Je te protège, liberté, pour t'embrasser. Je te protège, pour te sublimer. Régis Bonfort.
C'est très beau.
C'est incroyable.
Merci. Tu as mis ce qu'on appelle un acmé sur Alors. Tu sais, sur Alors, tu l'as mis en suspension. Pourquoi?
Parce que c'est comme ça que c'est écrit.
C'est comme ça qu'il faut le dire. Ça donne un appel d'air incroyable. Tu l'as très bien dit.
En tout cas, quand je t'ai écouté, j'étais comme soulevé dans un vent tumultueux. En fait, tu vois... Je t'écoutais et j'avais l'impression de voler tellement. Et en plus de cette liberté dont tu parles, c'est vrai que c'est important de la préserver parce qu'on ne sait jamais, parce que peut-être des fois, bon, Je finis pas cette phrase.
Vous lui faites peur, je pense.
Pas du tout.
Non, ça va.
On est vraiment en connexion avec elle.
Qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Tu vas aller à l'école?
Je pense que je vais rentrer chez moi pour m'endormir.
Te rendormir? Oui. Tu aimes bien dormir. Tu vas pas faire des dessins ou regarder Gulli? Non, tu sais pas encore.
Non.
Pas que tu as une sorte de trou dans la forêt. Tu vis avec des taupes?
Non.
Et tu, non.
Je vous dis que vous lui faites peur. Alors, on va écouter avant que tu partes notre poète maison locale qui s'appelle Jean-Noël Mistral.
Bonsoir. Je suis poète des chemins, poète de la poussière. Je m'appelle Jean-Noël Mistral.
Voilà. Il y a un grand livre à Côte d'Auteur qui va nous faire partager deux, trois poèmes magnifiques.
Qui n'est pas encore sorti.
Mais qui va sortir bientôt, j'espère.
J'espère aussi.
Ou
mais
pas.
Bon,
ou pas, ça serait bien aussi. Pas.
Ils ne sont pas comme nous. Ah non, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous, ils n'ont pas le même ciel, ni même la même forêt, ni même les mêmes oiseaux, même si parfois certains traversent la Méditerranée. Hein, ils ne sont pas comme nous, ils ne mangent pas de jambon ni d'andouillettes. Ah non, ils ne sont pas comme nous. Déjà, ils boivent peu et sont habillés de sable, et leurs rotules sont inversées. Ils braient au nom, pour un oui ou pour un non contre l'immensité. Ils ont des mouches au pourtour de la bouche lorsqu'ils mâchent. Ils ne sont pas comme nous, les chameaux. Leur bosse au levant d'Odeline quand ils marchent. Ils ne sont pas comme nous, ni même les fennecs, ni même l'alouette, ni même la dorade, ni même le phasme de pied. C'est un phasme qui ressemble
oui,
à des pieds.
Oui, j'ai cru comprendre. Ils ne sont pas comme nous.
Ils ne sont pas comme nous, les corbeaux qui mangent notre maïs effrontément. Ils ne sont pas comme nous, l'Italie, le Berry, les fourchettes, les riz de veau et les Indiens. Les herbes de ton champ ne connaissent pas l'opinion de l'herbe près du torrent et se puceront. Mmh. Et ce puceron, bourré de tiques, qui boite en gravissant cette jonquille, les yeux pleins de larmes, car il est seul et désespéré, ne rencontrera jamais cette courge à moins de 20 pas. Et cette colline, elle est comme nous?
On se pose la question. Mais...
Et cette pizza, et ce ciment, et les bactéries dans mes boyaux, ils sont comme nous?
Je sais pas.
Non, je ne crois pas, monsieur.
Moi non plus.
Et toi, tu es comme moi? Ben non.
Je crois pas.
Et toi, là, tu es comme... on est comme...
Et toi, tu es comme lui?
Non, je pense pas.
Non, surtout pas. Continue. Allez.
Mais et tous autant qu'ils sont lorsque le touriste allemand passe, tous prennent la pose
oui.
Pour faire une belle photo. Une pose avantageuse pour faire une belle photo. C'est pas forcément mon meilleur poème.
Non, c'est alors, pas... non mais je le sens empreint d'un message politique très
alors,
fort.
Bon, ça suffit à un moment, ces
histoires.
Oui,
ça suffit, là, je pense. Non, on en a assez parce qu'il y a les infos bientôt.
Attends. Ça suffit, ces histoires de racisme. Oui. Essayez de régler vos problèmes devant votre porte. Et arrêtez de penser que c'est à cause des autres. C'est le...
Oui. J'ai senti une émotion quand vous le disiez, parce qu'il y a un petit message politique quand même.
C'est ça, devenir adulte.
Oui.
Non, c'est pas politique.
C'est quoi alors?
C'est politique, mais au niveau des chasseurs-cueilleurs. C'est une politique d'il y a 10 000 ans.
Oui.
En fait...
Vous embrouillez beaucoup de choses, parce que j'avais l'impression que c'était très clair.
Pas, monsieur. Non, je paye mes impôts, j'ai pas besoin...
Oui, ça n'a rien à voir avec le poème. Ils ne sont pas comme nous. Vous avez fait des descriptions de gens qui venaient, peut-être qui était intéressant, vous êtes passé par le chameau, les oiseaux, tout ça et tout,
ouais.
Et on entendait des choses.
Je ne comprends pas votre analyse.
Moi non plus. On va dire au revoir à notre petite...
Ça t'a plu
jeune poète. Ça
oui.
T'a plu
hein c'est, bien, vois, c'est bien ce que je fais. Hein.
Et un autre poète des mots et de la poésie et des actualités, Thierry Paré. On laisse sur Thierry Paré parce qu'on est un petit peu en retard. Merci.
On attend aujourd'hui les chiffres du chômage pour le mois de mars, hein, au beau milieu donc de cette entre-deux-tours. Un meeting à Arras dans le Pas-de-Calais, précédé d'un déplacement dans la journée à l'usine Whirlpool d'Amiens, menacé de délocalisation. Voilà, ça c'est le programme d'Emmanuel Macron aujourd'hui, hein, donc pour ce mercredi 26 avril. Le candidat du mouvement En Marche, dont l'agenda était jusqu'à présent étonnamment dégarni, a visiblement décidé de passer la vitesse supérieure, ce qu'a fait Marine Le Pen, hein, dès le lendemain des résultats du premier tour. Hier, elle était sur le marché de Rungis, par exemple. Marine Le Pen, qui était l'invitée du 20h de TF1 hier soir, elle a accusé Emmanuel Macron d'être entre les mains de l'Union des organisations islamiques de France, une organisation dont elle appelle à la dissolution. Emmanuel Macron était lui l'invité du 20h de France 2 sur sa soirée controversée à la Rotonde dimanche soir, célèbre brasserie parisienne. Il a affirmé n'avoir aucun regret, ce ne sera pas le diktat d'une bien-pensance triste qui me dira où aller, a-t-il notamment déclaré, avant de préciser qu'il n'avait pas de leçons à recevoir, une réponse à François Hollande hein, qui a rappelé hier que rien n'était joué et qui a invité le candidat du mouvement En Marche à axer sa campagne sur la lutte contre le Front National. La CGT appelle à faire barrage à l'extrême droite sans inviter à voter pour Emmanuel Macron. Pour le syndicat, les résultats du premier tour sont les résultats des renoncements des gouvernements successifs à œuvrer véritablement pour la justice sociale. Quant à la Manif pour tous, elle appelle, elle, à s'opposer à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, candidat, je cite, ouvertement anti-famille. Des camions transportant les premiers éléments du bouclier antimissile américain Taad sont arrivés sur le site qui leur est dédié en Corée du Sud. Ce bouclier est supposé pouvoir intercepter et détruire les missiles balistiques nord-coréens à courte et moyenne portée durant la phase terminale de leur vol. Une manifestation rassemblant plusieurs milliers d'Indiens du Brésil a tourné à l'affrontement avec la police devant la Chambre des députés à Brasilia. Les CRS brésiliens ont empêché les manifestants armés d'arcs et de flèches de pénétrer dans le bâtiment en portant de faux cercueils. Les Indiens du Brésil luttent depuis de longues années maintenant pour le respect de leurs droits et la défense de leur territoire. Au Venezuela, la mobilisation contre le président Maduro se poursuit. Des milliers de manifestants occupent depuis lundi les principales routes du pays. Objectif, maintenir la pression contre le gouvernement et obtenir, tenter de le faire du moins, des élections générales. La fausse teigne de la cire n'a pas bonne réputation. Lorsque le papillon entre dans une ruche pour y pondre ses œufs, il opère un véritable carnage. À peine éclose, les larves dévorent les alvéoles à grande vitesse et ruinent la société des abeilles. Malgré tout, ces chenilles devraient rapidement changer d'image parce que des chercheurs annoncent que les terribles vers peuvent aussi dévorer le plastique et pas n'importe lequel. Le polyéthylène, c'est un produit particulièrement résistant, largement utilisé dans les emballages, qui constitue à lui seul 40% de la demande totale des produits en plastique en Europe. Et de deux, Angers va jouer le 27 mai au Stade de France la deuxième finale de Coupe de France de son histoire. La précédente, c'était il y a 60 ans, en 1957. Angers a sorti Guingamp hier soir en s'imposant 2-0. Le club affrontera en finale le PSG ou Monaco. Les deux clubs vont se départager ce soir au Parc des Princes. Et puis, Will Smith et Agnès Jaoui au jury du Festival de Cannes, l'acteur de Men in Black et l'actrice française compte parmi les 8 jurés qui, sous la présidence de Pedro Almodovar, décerneront la Palme d'Or de la 70e édition.
Merci Thierry Paré. J'ai une question, est-ce qu'il fait froid ?
Moins qu'hier, je crois.
Voilà, c'était la météo. Merci Thierry Paré.
Non, on confirme, il fait froid.
Voilà Jacques.
On confirme, il fait très très froid. Excusez-moi, mais ce matin, je sais pas, je vais avoir une drôle de tête parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un, ils s'en vont. Sauf ce monsieur.
On dirait peut-être le monsieur que j'ai en face de moi, un martien.
Ah, mais il s'est peigné ou pas ?
Parisienne, je ne sais pas où il va et ce qu'il fait, mais en tous les cas, je suis devant un micro et je dois m'adresser à quelqu'un et je ne sais pas à qui en particulier.
Vous êtes sur Radio Nova, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Voilà.
Enchanté.
Vous êtes avec Thomas Yatmen sur Radio Nova.
Eh ben bonjour Thomas. Ouais. Je ne sais pas présenter à moi, donc c'est bien que vous puissiez me le présenter.
Lui, voilà. Il s'appelle Jacques.
Jacques, ok, bonjour Jacques.
Voilà.
C'est marrant, c'est un truc studio en rue, c'est super drôle. Et vous avez une drôle de tête aussi. Hein.
Bah, je suis comme quelqu'un qui vient de se lever très tôt ce matin pour aller travailler.
Ah. Vous avez les yeux mouillés un petit peu.
Oui, je suis assez déçu de ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est pour ça que je suis un peu triste.
Moi aussi je suis triste, c'est pour ça que mes cheveux sont complètement ébouriffés. Pas tant que moi. Oui, ça vous a rendu triste ?
Oui, absolument, absolument, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça très triste pour ce pays. Pour tout ce qui se passe.
Qu'est-ce qu'on va devenir ?
J'en sais rien. Mais en tous les cas, on y va et je ne suis pas très fier de ce pays en ce moment. Et je trouve ça un petit peu déplorable.
Mais quand même, vous avez quand même enfourché votre vélo ce matin pour y aller.
Bah oui, il faut y aller. Je pense qu'il faut continuer à bosser parce qu'on n'a pas le choix. Donc j'y vais.
Vous faites quoi, monsieur, comme travail ?
Eh bien, je suis journaliste.
Bienvenue à la maison.
Merci pour monsieur beaucoup. Thomas.
Ouais, faut tenir debout. Hein.
Pour un journal ? Pour un journal ?
Non, pour une télévision. Pour les télévisions étrangères.
Ah, vous pouvez dire le nom ?
Oui, je travaille exclusivement pour NOS, donc une télévision néerlandaise, la télévision publique.
Ah, très bien. Et vous êtes correspondant étranger en France, c'est ça ?
Je suis JRI et j'alimente les journaux de la télévision néerlandaise.
Mais alors comment les Pays-Bas voient la France en ce moment ? C'est toujours intéressant d'avoir le regard étranger sur un paysage politique qu'on a l'habitude de voir, mais on n'a pas de recul forcément.
Ben, le recul des Néerlandais, c'est d'avoir eu un candidat récemment à l'extrême droite.
Gerd Wilders.
Et la surprise pour les Néerlandais, c'est de ne pas l'avoir eu. Et malheureusement, je pense que nous, je ne vais pas dire que c'est mal parti, mais quelque part, je trouve qu'on n'est pas loin du but. On n'est pas loin de voir le fiasco total. Et je trouve que c'est justement ce que je disais, c'est un peu triste, c'est même très triste.
Quand vous dites que c'est passé pas loin, effectivement, Gerd Wilders n'a pas gagné les élections. En ce moment, après l'élection, est-ce que aux Pays-Bas, on a déjà oublié ce, on dit souvent
non,
que les gens...
Non, je pense qu'il y a qu'il y a un tel dégoût aujourd'hui de ce qui se passe avec nos politiques, que inclus les Néerlandais comme les Autrichiens, on est passé à très peu de la catastrophe. Et je trouve qu'ici, les gens prennent conscience que quelque part, il y a quelque chose qui doit changer. Je ne sais pas où nous allons changer et dans quelle direction nous allons aller, mais en tous les cas, les deux candidats qui sont offerts aujourd'hui ne sont pas dignes de représenter la France.
Mais monsieur, est-ce que vous pouvez quand même nous dire un message d'espoir et si possible en néerlandais ce matin sur Radio Nova?
Non, surtout pas.
Pourquoi pas?
Non, surtout pas.
Si,
surtout pas.
Non, s'il vous plaît.
On adore cette langue.
S'il vous plaît, non, c'est très beau.
Non, parce que d'abord, je suis entièrement français à 100% de souche.
D'accord.
Vous ne parlez pas néerlandais du tout. Non, pas du tout.
Ah, Jacques, il parlait. Jacques parlait néerlandais.
Moi, je parle néerlandais. Je vais vous dire une petite phrase que je connais.
Oui.
C'est Ik wil je nu. Ik wil je nu. Ah, j'adore. Oui.
Ah, bah, vous parlez un peu.
Traduction. Non, je veux pas. Non, je veux surtout pas. Non, merci. On reste français et je suis très heureux d'avoir rencontré votre charmant correspondant de la rue de Paris aujourd'hui.
Là, vous allez prendre une caméra, choper des images.
Oui, je m'en vais à Amiens voir le fief de monsieur Macron.
Oui.
Ok.
Bon. Avant voilà. Jacques va vous payer un café, vous redonner un petit peu espoir.
Oui,
quand même.
Une petite vitamine C.
Je vais vous dire, on est. Je vais récupérer mon casque, il va enfourcher son vélo et traverser la rue Bafroy. Pas froid, donc on n'est pas très loin de la radio. Et on est devant un restaurant, vous avez vu comment il s'appelle ? Louis-Louis. Louis-Louis comme Louis les oreilles, quoi. Louis-Louis.
Ah, Louis-Louis, voilà. D'accord.
Et comme la chanson.
Il n'y a pas l'œil-l'œil et l'oreille-l'oreille, non ?
Ouais.
Ou le
écoutez
pied-pied ?
Bien, gardez les oreilles ouvertes, à tout à l'heure.
Oui, à tout à l'heure, le message d'espoir, le message d'espoir sur Nova, ce sera pour plus tard.
7h-9h, plus près de toi. Nova. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2 heures d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
Nous avons la chance d'avoir une série de meilleurs moments, en fait, de plus près de toi. Cette émission qui a commencé le 10 octobre, et évidemment, les meilleurs moments étaient nombreux. On en réécoute quelques-uns ce matin, mais pour, comme on dit dans le métier, lancer ce meilleur moment.
Ce meilleur moment. Je finis vos phrases, même si vous les avez déjà finies.
Nous avons Arnaud Aymar.
Bonjour.
En tout cas, incarné par Arnaud Aymar.
En fait, c'est un personnage que j'essaye d'incarner depuis maintenant une quarantaine d'années, vu que j'ai 45 ans.
Les 5 premières années sont bien passées.
Ça va, parce qu'on est plutôt naturel à cet âge-là. Mmh. Et maintenant, j'essaie d'incarner mon propre personnage, qui n'est pas évident. Parce que...
On s'y croirait, en tout cas.
Ouais. Ça va ?
Oui, non, mais là, c'est troublant. Non, c'est vrai.
Merci, ça fait énormément de boulot.
Bah, j'imagine.
Ouais. Beaucoup de complexes. On voit la glace, surtout à l'âge de 10 ans, quand on s'aperçoit qu'on a ce visage différent des autres, qu'on a des taches de rousseur et qu'on ne sait pas si on s'en sera défi.
Mais vous me faites penser à quelqu'un pourtant.
Eh bien, disons que, ouais, à force de travailler, ben, j'ai réussi à mimétiser, à être ce que je suis, à devenir ce que je suis, c'est-à-dire moi-même. Enfin. Pas l'être vraiment, mais l'incarner.
L'incarner, oui. Mm. Donc c'est le début d'un nouveau chemin, puisque vous êtes un peu au summum dans cet art-là.
Là, je pense que je ne peux pas faire grand-chose après. Après ça, je ne peux pas... je pense que voilà, c'est la fin de ma carrière.
Bah, peut-être que vous pouvez dire, et voilà, un nouveau, un extrait des meilleurs moments.
Ah oui, alors, je vais essayer.
Oui.
Et voilà le... Ah, je suis faux. Mm. Et voilà un des meilleurs moments... De plus près de toi. Ah, je suis faux.
Non, c'est bien.
Fred Touche, vous êtes comédien, metteur en scène, auteur.
Troubadour.
Oui, on y reviendra.
Troubadour.
En temps, faudrait-il donner de cet amour. Mais vous êtes présenté comme le fils du Yeti du Monty Python, ce que je trouve extrêmement prétentieux.
Oui, sauf que ce n'est pas moi qui ai imaginé ça. Moi, j'aurais été plus modeste.
Mais vous avez accepté, quand même.
Je l'ai accepté, oui, parce que dans le cadre d'une dimension promotionnelle, il faut... aller vers des terrains qui ne sont pas les nôtres.
Et vers le mensonge ?
Vers une sorte de non-mensonge, mais un mensonge poli.
Alors, je dis pourquoi vous êtes là. Vous avez commis, je n'ai pas d'autres mots.
Et convoqué, il n'est pas là.
Vous n'êtes pas invité, vous êtes convoqué aujourd'hui. Attention.
Je suis convoqué,
vous
n'êtes pas très bien.
Si vous avez commis un disque, soi-disant adressé aux enfants.
Mais bien sûr.
On va voir ce que vous entendez par enfant, destiné à éveiller, c'est écrit dans le dossier de presse, ces derniers, à ne pas dire oui à tout dans la plus pure tradition anglaise. Vous signez ces mots-là ?
Oui, je les signe, bien sûr.
On va écouter ce qu'est un disque adressé aux enfants, destiné à éveiller ces derniers, dans la plus pure tradition anglaise.
Et on a un enfant pour écouter.
Armel.
Ah, caca, pipi, la zigounette. Ah, caca, popo, cucu.
Akaka pipi la zigounette, akaka popo cucu. De la merde au cul à la merde qui pend.
Vous êtes sur Radio Nova.
Et qui pue du cul, de la merde au cul.
Goûtez Chocopunk.
Qui pue et qui pue du cul.
Indice de Fred Touche.
Du cul, mais ça sent pas bon.
Pour les enfants.
Caca, pipi, la zigounette.
Dans la plus pure tradition anglaise.
Popo cucu. Caca, pipi, la zigounette. Caca,
il est 8h16 du matin.
Du pipi qui pisse, la pisse qui pue.
On est vraiment en train d'écouter ça.
La pisse du pipi. Puant.
Oui,
la pisse du
pipi, vous êtes en train de subir ce moment, moi aussi, nous boirons le calier jusqu'à la lit.
Faites
touche. Combien de temps de préparation?
Des années, des années de maturation pour essayer de comprendre comment aider l'enfant à aller plus vite sur le développement du stade anal. C'est un élément important. Par son aspect un peu veule, souvent les parents ont tendance à aller un peu plus vite. Là, c'est une manière de concentrer. Ça va durer 6 mois. Pendant 6 mois, les parents vont entendre cette chanson parce que l'enfant va. C'est une chanson qui imprime bien. Les enfants aiment la chanter.
Il y a un esprit de sacrifice chez vous, hein?
C'est pas forcément un esprit de sacrifice. C'est une. Oui, dans ce sens où j'ai envie de. Oui. Enfin...
Vous avez envie de donner. Vous avez envie de. De dépasser les conventions bourgeoises, vous avez envie d'aller plus loin et d'aider l'enfant à sortir du « Tiens maman, regarde ce qu'il y a dans mon pot ».
Aujourd'hui, vous savez, le monde n'est pas dans ses meilleurs aspects. Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui vont faire le monde demain, qui vont devoir fermer les centrales nucléaires ou en rouvrir d'autres.
Tout de suite, un tout petit extrait encore. Donc ces enfants-là, à qui vous adressez, vont sans doute...
Il faut leur donner des outils. Et moi, j'ai voulu, au travers de cet ouvrage, ce CD pédagogique, leur donner des outils pour affronter le monde de demain. Le goûter chocopunk, c'est quoi? On dit souvent nos futurs. Non, c'est yes, présent. Et des outils, en tout cas, c'est une boîte à outils.
Bien entendu.
Et la rime,
on écoute.
Du cul, de la merde au cul.
Boîte à outils, les outils c'est salissant. On en parlait avec le garagiste tout à l'heure. Les mains dans le cambouis, toutes les formes de cambouis, bien sûr.
Oui, à dada pipi la zigounette.
À caca pipi.
À caca pardon. Pipi la zigounette.
Ça vient d'où? La même chose.
À caca pipi la zigounette. Ça vient d'où? D'où vient la parole? Parce qu'Henri Dess là a écrit sur les animaux et tout. D'où vous est venu le moment de dire à caca pipi la zigounette? Ça a été un synth. Parce qu'on a vraiment, on est vraiment, on est chez Charles Péguy, on est chez Hugo là, on est vraiment chez.
Oh, je dirais qu'on est plus chez Imodium. On est plus chez Imodium.
Smecta,
on est plus
dans
la dimension Smecta, si tant est que ce soit des auteurs. Il y a une diffusion un peu diarrhétique, toujours pour être dans cette notion
Fred,
de développement du stade anal.
C'est du xylophone qu'on entend derrière, c'est bien ça?
C'est du magicophone.
Sur Nova, la chanteuse malienne Oumou Sangaré avec un titre de son tout dernier album qui vient de sortir. On écoutait Kamel Mba à l'instant.
Oui, Ammoniacal, tu as lu la presse ce matin? Tu lis les journaux?
Ben non.
Ah bon? Mais
il fallait que je fasse ça.
Ben oui, quand même, que tu achètes tous les jours.
Que je...
Parce que c'est important de se tenir au courant du monde et des choses.
Mais non, j'ai rien fait.
Mais ne pleure pas, on t'engueule pas.
Moi si, attends.
Mais t'en fais pas, il y a quelqu'un qui est là, qui lit pour toi.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonsoir, bonjour.
Bonjour.
Dans la presse aujourd'hui, la sortie du nouveau magazine, enfin pas du nouveau, mais du nouveau numéro de magazine Society, dont la une a déjà fait pas mal parler. On y voit 2 bulletins de vote sur fond rouge et qui indiquent marche ou crève, le programme qui fait rêver. À l'intérieur du magazine, on trouve un petit mode d'emploi à l'usage des candidats et la règle numéro 4, c'est de draguer l'ennemi. Et la drague a commencé un petit peu partout, si l'on en croit la presse du jour. Pas évident pour le Front National où Marine Le Pen a tenté de faire un discours, nous dit-on dans le Figaro, pour aller pêcher à la fois des électeurs de Mélenchon et des électeurs de Fillon. Le beau grand écart. Macron va faire une guerre sociale éclair dès son élection, dit-elle aux électeurs de Mélenchon. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Alors pour draguer les électeurs de Fillon juste derrière, faut pas avoir peur. Pendant ce temps, la stratégie ou non, un bout du parti du Front National part à la recherche des voix mélenchonistes. C'est Florian Philippot qui s'en charge. Tandis que l'autre, Team Marion Maréchal Le Pen, s'en désolidarise ostensiblement. C'est un chantre de l'immigration, dit-elle, le triomphe du laxisme. La technique est audacieuse, les ficelles presque visibles. Pendant ce temps-là, toujours dans le Figaro, on nous explique qu'En Marche, eux, draguent à droite chez Macron. On drague plus discret chez En Marche. Et surtout, on se présente comme l'amant idéal, le mec pas chiant. Je cite textuellement, « Nous ne posons jamais d'ultimatum. Nous ne demandons à personne de divorcer. » L'aventure comme ça semble un petit peu inoffensive. C'est le coup à tenter. La drague semble porter ses fruits. Les échos nous apprennent que Bruno Le Maire serait prêt à rejoindre un gouvernement en marche. Mais chez les échos, on apprend aussi que derrière cette petite drague, il y a une blitzkrieg. Macron, nous dit-on dans l'édito, est déjà dans les législatives. Les partis historiques du premier tour sont morts. La question reste, comment les aspirer, tout avaler de part et d'autre. Au parti communiste et au front de gauche, ce n'est pas draguer ses ennemis l'ordre du jour, mais ne pas s'embrouiller avec ses amis. Pierre Laurent, nous raconte-t-on dans Libé, qui a appelé à barrer l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, s'inquiète des dissensions à venir. Mélenchon apparemment ne lui répond plus au téléphone. Après un score pareil, dit-il, ce serait tellement dommage de tout foutre en l'air. C'est dangereux pour la gauche. En tout cas, les candidats auraient pu tous suivre les troisièmes rencontres de la Niac qui ont réuni à Paris plein de gens qui ont la Niac. C'est Le Parisien qui nous le raconte dans un bel article. La Niac, ça s'apprend à aller chercher le monde avec les dents. C'est, d'après un psychologue, un peu le bonheur, si je veux, accepter une part de risque. Hein, une de ces nouvelles injonctions à être heureux, donc, pour s'intégrer et réussir dans la société Lagnac. La part de risque, c'est aussi ce dont parle Sylvain Tesson dans un article du Figaro consacré aujourd'hui au Festival du film et de la découverte et de l'aventure à Val d'Isère. Pour lui, l'aventure, c'est l'anticonformisme d'aujourd'hui. Prendre des risques extrêmes, c'est mener une guerre contre soi-même. Mais contrairement à Lagnac, l'aventure propose aussi, selon lui, un éloge de la fuite, un décalage avec la société. L'aventure, c'est une critique non avouée et non formulée de ce qu'est en train de devenir notre société en termes de robotisation de l'être humain. C'est aussi une réponse à l'ultra-sécurisation de nos sociétés et surtout un appel à prendre ses responsabilités, être responsable de soi et des risques qu'on prend sans accuser le monde entier. Prendre ses responsabilités, un truc qui se perd. Il estime aussi que l'émerveillement est la condition absolument sine qua non de l'aventure. Et si on le suit, on pourrait peut-être remplacer la une de Society par un refrain qui est beaucoup passé à la radio ces dernières années. Non pas marche ou crève, mais marche ou rêve.
Oh, merci Marie Misset. Je retiens, outre cette conclusion, marche ou rêve, les rencontres de la Niac. C'est les premières rencontres de la Niac, c'est ça?
Écoute, je ne sais plus, j'ai lu l'article tout à l'heure. Il me semble que c'est peut-être les troisièmes.
Troisième rencontre de la Niac.
On a quelqu'un là qui a la Niac, qui va aux rencontres là bientôt.
Ouais, j'y vais, ouais.
Ouais, t'as l'air énervé.
Vous allez aux rencontres de la pêche, je crois, ou de la banane.
Je vais à la Niac aussi, je vais à la pêche, je vais à tous les rendez-vous énergétiques.
Et pourquoi vous avez la Niac?
Red Bull.
Pourquoi vous avez la Niac?
Parce que je bois du Red Bull.
Une pub comme ça qui est glissée. Faut dire les autres aussi.
Pour être là, pour être dans le temps présent, ouais. Pour satisfaire, je mets une tomate, je la mange. Ouais, je sais pas, je prends une pelle, je creuse. Ouais.
Vos yeux sont la taurine.
Je suis dans l'action, je suis pas dans la réflexion. Ouais, la philosophie, la c'est de la merde. Ouais. Moi, je fais des choses.
Vous avez un cri de ralliement pour la Niac?
Ah
ouais, c'est bien.
Ça, c'était ceux des deuxièmes rencontres. Parce que ouais. Les premières rencontres, c'était mieux. C'était quoi le cri des premières rencontres?
Mais c'était la première rencontre, c'était plus. On était un peu. On était en Ariège. C'était. Yippishiaou, Area, Jiri Krishna.
C'est moi la Niac, ça.
C'est tranquillou la Niac.
C'est autre chose. Ouais, ouais.
Demain, on verra la FIAC. C'est encore mieux. Ça passera mieux.
C'est autre chose. Mais j'entends des bruits au téléphone. Il y a quelqu'un qui est en ligne avec nous.
Il y a quelqu'un?
Démoniacal.
Ah, ben il est là.
Qui c'est?
C'est papa.
Père.
Tu rentres tout de suite.
Mais je
non,
j'ai encore.
Non.
Réel. Non.
Tu rentres. Tu rentres à la maison.
Mais père, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Je pensais que vous étiez mort.
Je t'attends. Mais... Je t'attends devant la forêt enchantée.
Mais vous étiez pas tombé dans la chute d'eau poussée par ce cerf?
Non, j'ai été sauvé par le hublot.
Un bond. Mais il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit.
C'est beau.
C'est la faute de Bob. Je t'attends au péage de la forêt enchantée.
Père, j'avais une question à vous poser depuis toutes ces années où je vous avais pas vu. C'est pourquoi vous avez construit toutes les zones industrielles en France?
Parce que ça séchait pas assez vite. C'est une histoire de séchage de ville. Tu comprends?
Oui, maintenant je comprends. Tout ces
Il te faut le mode d'emploi. Le bac de lavage, le bac adoucissant, tout ça, c'est des conneries, Ammoniacal.
C'est vrai.
Oui.
Et moi qui ai donné tout mon argent au prêtre,
C'est pas ça. Il faut que tu choisisses l'un des programmes.
Alors je fais quoi? Je mesure un programme 6 avec synthétique et je mesure 40.
Oui. Oui, ou 95, comme tu veux.
On va vous laisser vous donner rendez-vous dans un café pour cette, la suite de votre rencontre.
À bientôt.
Ammoniacale, je t'aime.
Moi aussi, oh, papa.
Je t'aime.
Papa. Papa. Tu... On jouera au foot?
Non, j'aime pas le foot, tu le sais très bien.
Oui.
Bon, bah.
Trop d'émotions.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h. Oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Deux petites minutes de retard, mais les infos tout de suite de Thierry Paré.
Emmanuel Macron, qui a consacré son début de semaine à des consultations en vue d'une future majorité, est aujourd'hui en déplacement dans deux fiefs de sa rivale. Il a prévu d'abord à midi de rencontrer l'intersyndicale de l'établissement Whirlpool d'Amiens à la Chambre de commerce et d'industrie de la ville. Et puis il va ensuite organiser un meeting à Arras, où il doit prendre la parole à partir de 19h. Après un début de campagne du second tour plus actif, en revanche, pour Marine Le Pen, elle sera par contre aujourd'hui en retrait, en conclave avec le conseil stratégique de sa campagne à la veille d'un grand meeting. C'est comme ça qu'il est vendu, en tout cas, du côté de Nice. On attend aujourd'hui les chiffres du chômage pour le mois de mars, au beau milieu donc de cette entre-deux tours. Des camions transportant les premiers éléments du bouclier antimissile américain Taad sont arrivés sur le site qui leur est dédié en Corée du Sud. Ce bouclier est supposé pouvoir intercepter et détruire les missiles balistiques nord-coréens à courte et moyenne portée durant la phase terminale de leur vol. Une manifestation rassemblant plusieurs milliers d'Indiens du Brésil a tourné à l'affrontement avec la police devant la Chambre des députés à Brasilia, la capitale. Les CRS brésiliens ont empêché les manifestants armés d'arcs et de flèches de pénétrer dans le bâtiment en portant de faux cercueils. Les Indiens du Brésil luttent pour le respect de leurs droits et la défense de leur territoire. Au Venezuela, la mobilisation contre le président Maduro se poursuit. Des milliers de manifestants occupent depuis lundi les principales routes du pays. Objectif, maintenir la pression contre le gouvernement et obtenir notamment des élections générales. Et de deux, Angers va jouer le 27 mai au Stade de France, la deuxième finale de Coupe de France de son histoire. La précédente, c'était il y a 60 ans, 1957. Angers a sorti Guingamp hier soir en s'imposant 2-0. Le club affrontera en finale le PSG ou Monaco. Les deux clubs vont se départager ce soir au Parc des Princes.
Merci beaucoup.
Dans quelques minutes, un live. Dans Plus près de toi, c'est le groupe La Femme qui est en train de terminer ses balances sous, dans le Café Nova. On les entend? Ah, c'est ça, c'est eux?
Ouais, oh, je sais pas s'ils jouent vraiment un morceau ou ils font n'importe quoi.
C'est un peu libre, mais ce sera un peu plus carré tout à l'heure. Ce sera vers 9h moins le quart. On fait une petite pause de réclame et juste après, on parle Beaux-Arts.
Réclame?
Non, c'est pas ça qu'on dit.
Si on dit à la réclame, 7h, 9h,
plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi? Ah, ah.
Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Le groupe parisien Isaac Delusion à l'instant sur
Nova. Je le connais, je le connais, ouais. Ils sont parisiens donc je le connais.
Bah ouais.
Voilà.
C'est un super.
Merci,
tu les connais bien.
Je les connais bien, ils sont parisiens.
Ah ouais, c'est sympa, non?
Je l'ai dit ou pas?
Ouais.
Oui. Moi je les connais pas.
Parce que t'es pas parisien?
Non, moi j'habite à Tours.
Ah bah voilà, bah ouais. Belle information. Tout s'explique.
C'est un feuilleton qui dure depuis plus de 70 ans, un feuilleton lié à un tableau signé Bartholomeus van der Elst, un tableau, une peinture flamande, signé de ce portraitiste du 17e.
Portraitiste.
Voilà. Exactement, et ce tableau a été volé, confisqué par les nazis pendant la guerre. Il fait partie de la collection Adolf Schloss, qui était au cœur du film de Georges Clooney, Monument Men, pour ceux qui l'ont vu, les quelques-uns, et c'est un feuilleton qui continue. Bonjour Philippe Sprang.
Bonjour.
Encore un rebondissement dans ce feuilleton et dans ce tableau confisqué que les héritiers réclament, évidemment.
Oui, tout à fait. Il fait partie d'un lot de 160 tableaux environ qui n'ont toujours pas été récupérés de la collection Schloss. Pardon. Et donc, ce tableau, en l'occurrence, est mis en vente aujourd'hui à 3h par la société de vente Kinski à Vienne. Mm-hmm. Et donc, ce qui est assez sensationnel, c'est que il avait déjà été mis en vente l'an dernier. Et sans aucun problème, la maison de vente explique que ce tableau a été volé par les nazis et on le remet en vente. Il a été racheté par une première personne, par une deuxième. Et maintenant, voilà, on le remet en vente. L'État français avait à ce moment-là dit « Attendez, ça ne va pas du tout. »
Parce que c'est une collection française. L'héritière aujourd'hui est française.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. La collection a été volée en France en 1943 par les nazis. Mais là, c'était carrément un hold-up puisqu'ils sont intervenus. C'était une spoliation, mais c'était vraiment un hold-up orchestré par Göring, la Gestapo de la rue Lauriston. Donc on est vraiment dans un vol complet.
Il paraît que la collection était déjà dans l'œil des nazis avant la guerre.
Oui, tout à fait. C'est une collection qui avait été visée, puisque c'était la plus belle collection de maîtres flamands et hollandais des 16e, 17e, en main privée. Donc 333 tableaux. Et il faut voir que c'était les canons un peu du Reich. Ils adoraient ces peintures, qui aujourd'hui valent plus grand-chose, d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était quand même voilà ce qui les intéressait.
Le tableau est coté autour de 30-40 000 euros, c'est ça, aujourd'hui?
Oui, c'est ça. Et donc...
Qu'est-ce que c'est un hold-up? Ils sont rentrés dans un appartement là,
pas du tout. C'est-à-dire que la collection avait été mise à l'abri dans un dépôt de la Banque Jordan, au château de Chambon, près de la Gouenne, en Corrèze. Et ils ont monté une opération déguisée en avec des vêtements militaires, etc. Et ils ont fait genre, on vient prendre la collection. Les gens ont résisté, de la banque et puis des autorités locales. Et finalement, ils ont dit, on la prend quand même. Et donc, ça a donné lieu à une grande bataille entre Göring, entre Hitler. Grosso modo, c'est Hitler qui a gagné, comme souvent dans leur match à tous les deux. Et donc, les tableaux sont... Une partie des tableaux a été préemptée par le Louvre et une autre partie est partie à Munich, au Führerbau, là où il stockait un peu ses toiles pour son musée de Linz. Et quand les Allemands sont arrivés, quand les Américains sont arrivés en 45, juste la veille qu'ils arrivent, le personnel est parti et tout a été pillé. Sur 723 tableaux qu'il y avait là-bas sur place, il y en a 525 qui ont été pillés, dont les 240 tableaux qu'il y avait de la collection Schloss.
Et donc, il y a eu de nouveaux propriétaires, au final, de ces tableaux, et notamment de ce tableau de Bartholomew von der Helst, des propriétaires qui ont fini par se sentir légitimes.
Oui, voilà, c'est un peu le sujet, parce qu'aujourd'hui, le marchand de la galerie de peinture, le marchand de la maison Kinski, qui remet en vente, dit, écoutez... Nous, le droit est pour nous. En fin de compte, c'est un acheteur de bonne foi, un acheteur qui ne savait pas finalement que ce tableau avait une origine douteuse. Alors, c'est quand même assez curieux comme articulation, puisque quand on achète un tableau, même si on met si c'est que 20 000 ou 30 000 euros, on va regarder sur Internet, maintenant en trois clics, on voit que ce tableau, il a été volé, c'est dans toutes les bases de données. Mmh. Donc déjà, tout ça est assez curieux. Et par ailleurs, ça renvoie à les gouvernements, un petit peu de part et d'autre, à leur responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Parce que d'un côté, effectivement, le marché est inquiet. Il se dit, écoutez, il y a ces toiles qui plombent, on ne sait pas d'où elles viennent, si elles ont été récupérées ou revendues, ou si elles sont légitimement réclamées par leurs propriétaires. Là, le point, tout le monde se renvoie la balle. De toute façon, le propriétaire qui va l'acheter, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas pouvoir le revendre, il ne va pas pouvoir bouger avec.
Mmh. Parce qu'il est scellé, en fait, le tableau.
Il n'est pas scellé, mais il est sur la liste d'Interpol. Et donc, du coup, qui va prendre le risque de prendre ce tableau?
Et comment on réclame le tableau? Il faut des preuves, il faut amener des dossiers.
Voilà, c'est ça, c'est un travail qui est... C'est un peu le problème des héritiers quand ils veulent réclamer leur tableau. C'est qu'en fin de compte, tout ça demande des recherches extrêmement coûteuses.
Des photographies.
Des frais d'avocat, etc. Alors, dans le cas de la collection Schloss, un des avantages, c'est quand même, on connaît à la minute même ce qui s'est passé pour cette collection, on connaît toute son histoire. Donc, en termes de police et d'enquête, c'est assez simple. Maintenant, on se retrouve face à un problème juridique plus large, dans le monde entier. Et là, le fait que quand même, là, on est dans le toupet absolu. C'est-à-dire que le type sur le dit, ce tableau a été volé, c'est assumé, mais on le met en vente quand même. Ah, on y va. Donc c'est un peu le point. Là, on va voir comment à la fois l'État français réagit, et l'État allemand et l'État autrichien.
Alors, c'est un tableau qui représente un homme âgé au regard triste et désabusé, peut-on lire, donc, signé Bartholomew von der Helst.
Il ressemble un peu à Richelieu, je trouve.
Ça date de 1647, absolument. Qu'est-ce qui va se passer, Philippe Sprang, dernière question, cet après-midi, au moment de cette mise en vente, après donc tout ce feuilleton, l'année dernière, il a été mis en vente, puis retiré de la vente, cet après-midi,
moi, j'en
le tableau
sais rien,
est à nouveau
vendu. Je pense qu'on va attendre aujourd'hui une réaction du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Affaires de la Culture en France. La question, c'est qui va bouger? Est-ce que c'est l'État français qui va bouger, qui va bloquer? Est-ce qu'il peut bloquer? Est-ce que finalement l'État français est juste dans une position de dire il faut que les héritiers s'arrangent avec le vendeur? Parce que le vendeur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux héritiers, venez, on met le tableau en vente, on fait moite-moite, on partage. Mmh. Mais les héritiers disent non, on va payer une deuxième fois. Et c'est juste pas possible. On ne peut pas commencer à payer parce que sinon on entretient ce trafic. Donc non, l'avocat a dit nous, on ne paye pas.
Merci beaucoup Philippe Sprang de nous avoir fait le point sur cette affaire qui date d'il y a longtemps, mais qui est d'actualité, on l'a compris.
Un petit live se prépare, je me mords la langue en même temps. Un petit live se prépare sous la verrière de Nova. Atmen,
oui, je suis là. Oui, j'y vais tout de suite à la verrière.
Allez, voir ce qui se passe.
Je vole.
Ah bah oui, s'il ne parle pas en même temps.
Il y va, oui. Il a fermé la porte, c'est sûr,
alors,
c'est
il
bien.
En train, il est en train de marcher, il court, il marche.
J'y vais,
je vole,
j'arrive.
Ah voilà.
Il fait... Là, il vient d'ouvrir une porte. Voilà, on devine qu'il est là. Il est en train de discuter. Il voit des gens.
Bon. Ouais. Il y a du monde, apparemment.
Il est en acuité visuelle. Après, il est en acuité au sonore. Là, il est en acuité.
Il y en a des qui mangent. Il y en a des qui boivent.
Il fait de la radio sans parler, donc.
Il fait du mime. Là, il est en train de faire un mime de...
Il dit la femme.
De portugais.
Voilà. Avec de quoi?
Ah. Un mime de portique.
Est-ce que... Allô ?
Oui ?
On peut prendre l'antenne, je suis avec Rudy là.
Bonjour Atman.
Voilà, on est sous la verrière, il y a du monde ou pas ? Oui, hein ? C'est plein de monde, voilà.
Et ben c'est
je
super.
L'ai dit, c'est super.
Et ben voilà, à tout de suite la pub.
À tout de suite.
Plus près de toi, Edouard Baird.
On file sous la verrière, le grand café de Nova, où nous attendent Rudy et Atmel.
Je suis là, Armel. On est ce matin avec la femme qui nous prend par la main. Et quand la femme nous tend sa main, et ce depuis quasiment une dizaine d'années, nous savons que le voyage sonore et imagé sera instable, coloré, fantastique, électrique, et que les montagnes russes sous haute tension seront plus folles qu'à l'accoutumée. La femme, c'est se laisser aller dans un mystère toujours plus noir, se donner, s'offrir, le droit de se laisser aller, à rêver, à s'amuser dans ce monde qui va mal. La femme elle-même se demande où ce monde va. Elle n'en sait pas plus que nous, mais cette femme, cette jolie femme, a le don de parler directement à son public, sans code, sans cynisme, sans angoisse, mais directement aux neurones enfouis, avec une poésie juste et une lucidité enfantine. N'ayons crainte de le clamer haut et fort, la femme est un des groupes les plus passionnants de sa génération, porte-étendard d'une jeunesse libre, un brin désabusé. La femme vient nous caresser ce matin en live dans une formation trio inédite, Clémence, Marlon, Sacha, juste avant de prendre d'assaut demain la cité des sciences et de l'industrie avec la soirée de nos camarades des Inrock, Science Friction. La femme, bienvenue.
Merci. Bonjour Radio Nova.
Bonjour.
Bonjour
à vous.
Chers auditeurs et chères auditrices.
Bienvenue. La femme est matinale ce matin. On commence avec un premier titre, Sphinx, de l'album Mystère.
La femme en live dans Plus près de toi et sur Facebook Live.
On danse, on a dansé sous acide entre deux tours. C'est peut-être la meilleure chose à faire en second titre, avec toujours la femme, le vide et ton nouveau prénom de ce même album, Mystère.
La femme en live, en formule acoustique, sur Nova. Il y a une date à rappeler, Rudy ?
Tout à fait. Ils seront demain dans une formule encore plus inédite à la soirée Science Friction, organisée par les Inrock à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Est-ce qu'on a le temps, Armel, pour rentrer le troisième titre ?
Il reste 2 minutes, donc ce serait dommage de les couper au milieu. Il faut peut-être inviter les gens à vous rejoindre sur Facebook Live.
Sur Facebook Live pour un troisième titre tout de suite.
Voilà, cette émission un petit peu particulière touche à sa fin, hein, comme on ne dit plus depuis longtemps.
Oui, elle touche à sa fin, c'est normal.
Elle touche à sa fin parce qu'elle avait envie de la toucher.
Oui, dites-le. Mais dites-le à Monica.
Ça y est, elle a touché à sa fin.
Et c'est quoi la fin en fait ?
Ben, la fin de quelque chose.
On va vous ranger à Monica dans la boîte.
Là.
Oui.
Vous pouvez faire un petit bilan de cette émission, de ces 2 heures écoulées en votre compagnie à Monica ?
5. 18, ouais. 20,
ouais.
Tout ça c'est des notes qu'on a reçues aujourd'hui du public. Je suis soufflé
parce que vous
avez j'ai couru et
j'ai
luché sur une raquette.
Ouais.
Oui.
Et le bilan c'est que je pense que la vie continue, on est bien ensemble et peut-être que...
Vous allez manifester ce week-end à Moniacal ?
Non.
Ah bon,
c'est à Moniacal, la fin d'une chose est toujours le début d'une autre.
Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est quand une feuille tombe dans un arbre, par exemple, elle percute un escargot, et à ce moment-là, l'escargot, lui, eh ben, peut-être, bon, c'est sûr que peut-être une fracture de la coquille, mais peut-être ça lui donne à manger, et là, la vie, après, il fait des excréments, et ça nourrit les vers
vous
de terre.
Vous perdez votre voix, la maniaque.
Oui. Ah oui, mais c'est pas grave, parce qu'on est en fin d'émission, justement. Oui. On a le droit que ça se délite. On a le droit.
2 heures.
C'est l'humus du théâtre, ce que je suis en train de faire.
Oh, j'entends un grand bruit. Serait-ce les 30 glorieuses ?
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.